Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatif, responsable de marque, directeur de plateforme technologique, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Olivier Guillot et Hervé Bloch pour ce podcast. Olivier Guillot est le directeur du Digital Customer Experience chez KPMG. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Et Hervé, évidemment, le fondateur des Big Was. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Alors, ça sera un podcast en duo pour l'Entertainment Lab aujourd'hui. J'ai plaisir de vous inviter pour ce podcast qui va être... L'Entertainment Lab est en partenariat avec Hervé, avec les Big Boss Success. On va créer un nouveau format. Alors, pourquoi ? Parce que j'ai été à l'événement. On a été aux 10 ans récemment des Big Boss, que j'ai adoré. Ça faisait des années que je devais le faire et j'en parlais, mais c'était la première fois. Et j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié le format. Une vraie authenticité, des super invités, les 10 ans, donc c'était un temps fort. Un concept assez inédit que j'ai découvert de matchmaking entre les grands groupes, des prestataires ou startups. Et c'est vrai, une bonne ambiance et un côté perso-pro qui fait du bien, j'ai trouvé. Donc on est ravis avec Hervé de lancer cette collection qui va permettre de découvrir à la fois des big boss, mais aussi des histoires, des belles histoires qui vont naître entre des groupes et des prestataires, comme tu as pu faire depuis une dizaine d'années. Alors en quelques mots sur ces 10 ans, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, sur cet événement où vous étiez ?
Un très grand professionnalisme, hein. C'est vrai que j'ai vu, moi j'ai commencé en 2015, alors j'étais pas à la toute première ou les deux premières, mais j'étais ensuite dès 2015, un grand professionnalisme, sachant qu'il y avait quand même 750 personnes, je crois, participants, et c'était assez fluide, et on avait l'impression d'être choyé et pris en tant qu'individu, donc oui. Malgré la masse, voilà. C'est ça que j'apprécie.
Hervé, toi qui as vécu de l'intérieur un peu ton débrief de ce moment, hein, qui était important pour toi.
Alors effectivement, c'était l'édition de tous les records, l'édition des 10 ans. On a commencé, il y avait 146 participants il y a 10 ans, aujourd'hui donc 750. J'ai commencé, j'étais seul pour opérer avec une stagiaire, d'ailleurs elle avait 50 ans, c'était une stagiaire en reconversion, et j'avais 50 personnes de mon staff pour cette édition, donc on voit la croissance exponentielle, et effectivement, ce qui est important, c'est qu'on a gardé l'esprit du début. C'est comme les startups, hein, les startups, c'est pas un statut, c'est un état d'esprit, et donc on veut garder cet état d'esprit de convivialité et de business sans se prendre au sérieux.
Alors c'est ce qui m'a marqué, moi, ce mindset, pour revenir un peu, puis après on parlera d'Olivier, mais c'est vrai que moi ce qui m'a marqué et ce que j'ai bien aimé, c'est ce côté mindset un peu, je dirais un peu à l'anglo-saxonne, mais un côté assez accessible, les gens assez accessibles, même s'il y avait, tu disais, un nombre, Olivier, de gens importants. Alors c'est sûr que c'est très intense, par contre, il y a un côté intense, un cadre sympa quand même au ski à Tignes. Alors c'est vrai que les gens se retrouvent en dehors de leur cadre naturel, donc je pense que ça force aussi des relations assez naturelles. Et puis pas mal d'informels entre le soirée, le dîner, un moment fort aussi, on a pu découvrir le big boss de la décennie, Olivier, on va en parler, qui a signé énormément de deals sur ces trois boîtes, parce qu'Olivier, t'as été chez Pizza Hut, Sodexo et KPMG. Mais toi qui en as fait beaucoup, alors qu'est-ce qui t'a un peu marqué dans celui-là ?
Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait, pas mal de nouveaux. À chaque fois, en fait, je suis étonné par les nouveaux prestataires et les nouveaux décideurs. Donc, ça brasse quand même pas mal de nouvelles personnes, ce qui est intéressant, puisque du coup, on fait des nouvelles rencontres. C'est ce qui me plaît, en fait, c'est de revenir. Alors, il y a toujours parfois un petit noyau dur où on retrouve des pères qui sont même devenus des amis pour certains. Donc, ça, c'est très agréable. Et en même temps, beaucoup de personnes nouvelles, beaucoup de rencontres. Et le, en tant que décideur, on ne se fait pas uniquement alpaguer pendant les datings du vendredi ou du samedi, mais en fait, pendant les trois jours, ça commence dès le train, voire même avant le train, puisqu'on reçoit des invitations via le chat sur l'application, jusqu'à plusieurs jours après, évidemment. Après, il faut honorer ses rendez-vous, etc. Mais donc, c'est vraiment un rendez-vous business intense pour trois jours.
Un peu où, un accélérateur, on pourrait accélérateur, dire, des deux côtés d'ailleurs.
Voilà. Et après, effectivement, ça demande beaucoup de temps. Alors, j'imagine pour les prestataires, mais également pour les décideurs, ça demande du temps de suivi, de follow-up. Moi, j'ai déjà fait plusieurs rendez-vous avec différentes boîtes que j'ai vues, ou ma collègue qui était venue également à l'événement. Et donc, c'est un... Bah, il faut être, faut être sérieux. Alors, effectivement, c'est un cadre sympathique, mais on est là pour travailler. Également le week-end. Et c'est vrai que des fois, on l'oublie un peu trop.
Exactement. Bah, moi, c'est ce qui m'a marqué, un peu cette alchimie. On en parlait off-record avec Hervé. Ce matchmaking, un peu, c'est ça, je trouve, qu'a créé les big boss entre des décideurs, des startups. C'est pour ça que je voulais vous inviter aussi, parce que finalement, je trouve que Hervé, tu as créé quelque chose un peu au cœur de l'économie, parce que moi, je suis entrepreneur. C'est vrai, quand on est entrepreneur, on va souvent embarquer les grands groupes, faut convaincre des grands clients. Sauf que les rencontrer, c'est pas toujours facile. Il y a pas toujours un temps d'attention qui est... Et là, c'est vrai qu'il y a une vraie attention qui se crée. Il y a une relation un peu plus personnalisée. Donc ça peut aussi, c'était ta tagline, business as it should be. Mais moi, je l'ai vraiment ressenti. Donc c'était une super expérience. Donc Olivier, toi, donc t'as été nommé un peu dans la catégorie. Il y avait un peu comme des awards, il faut dire, aux 10 ans.
Tout à fait.
T'étais le big boss de la décennie, je crois, c'est ça? 10 years big boss. Tu peux en parler, Hervé, peut-être.
Effectivement, à chaque édition, dès la première d'ailleurs, on a voulu célébrer des prestataires innovants, célébrer des deals. Et donc là, pour cette fois-ci, on a voulu vraiment retracer et identifier les deals ou les décideurs les plus méritants sur les 10 dernières années. En l'occurrence, pour Olivier, les 8 ans, il a commencé en 2015 et il est très présent sur nos événements majeurs Summer et Winter Edition depuis 8 ans. On a aussi célébré le plus gros deal qui pèse plusieurs millions d'euros chaque année pour le prestataire et pour le décideur, parce que c'est un deal de monétisation avec Monetize Angels et Interflora. Et donc, ce qui est important, c'est que on veut retracer l'origine business, puisque c'est notre cœur fondateur. Bien sûr qu'on fait un événement relationnel, sympathique, convivial, tout le monde se tutoie, c'est sympathique, comme tu l'as rappelé Olivier, c'est un week-end. Mmh. Donc finalement, c'est un sacrifice que vont faire des décideurs pour leur contexte professionnel. Ils abandonnent conjoint et enfant pour quelques jours, et ils vont vivre cette expérience à fond. Et donc on a voulu célébrer le deal le plus gros de la décennie, et puis le décideur qui a le plus contribué, un peu dans une logique d'endurance. C'est-à-dire que voilà, à chaque participation, il a identifié des prestataires qui pouvaient être intéressants pour lui, qui pouvaient aussi accélérer ses enjeux digitaux et finalement aussi accélérer sa carrière. Parce qu'on le dit pas tant que ça, mais un décideur qui choisit les bons partenaires va donc avancer plus vite et va propulser plus vite sa carrière. C'est aussi un enjeu d'accélération de carrière pour les décideurs.
Olivier, tu peux en parler, parce que toi, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que tu as vécu ça depuis 8 ans. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu expliques aussi ce qui est intéressant pour toi dans ce format. Est-ce que c'est un gain de temps pour rencontrer les gens? On peut vite y passer son temps quand on est, entre guillemets, chez l'annonceur. Est-ce que toi, c'est une manière de concentrer et d'avoir accès à des gens de qualitatif? Qu'est-ce que finalement tu retrouves le mieux dans ce format? Qu'est-ce qui t'a plu autant toutes ces années?
Ce qui m'a plu, c'est l'efficacité. L'efficacité à trouver des prestataires, des bons prestataires. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont... Maintenant, Hervé a mis en place une Big Boss Academy, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est la Big Boss Academy, qui forme ses prestataires à mieux se présenter, à mieux pitcher. Parce que parfois, je me souviens, les toutes premières éditions, il y avait certains prestataires qui faisaient leur discours de speed dating en quelques minutes, et c'est compliqué, c'est un exercice très compliqué, où parfois on avait du mal à appréhender la valeur ajoutée précise.
Il y avait déjà les 20 et les 7 minutes, ça a toujours été les deux durées clés.
Et maintenant, alors il n'y avait que les 7 minutes à l'époque, et il y a eu des confirmations sur les premiers rendez-vous le lendemain, et maintenant, donc il y a deux formats, et je dirais que maintenant... c'est très rare les prestataires qui se présentent pas très bien. La plupart des prestataires se présentent très bien, mettent bien en valeur leur valeur ajoutée, ont bien préparé leur événement. Et du coup, C'est un gain de temps pour moi, hein, concrètement. Moi, je suis pas mal sollicité, comme beaucoup de personnes sur LinkedIn, et je n'ai pas le temps de lire mes messages sur LinkedIn, par exemple, ou démarcher au téléphone, etc., ou par mail. Là, c'est un temps que je consacre à la recherche de prestataires, et donc je me force à effectivement dégager du temps dans mon agenda pour cela. Et je trouve que c'est riche, parce que souvent, c'est des prestataires de qualité. Moi, effectivement, j'ai signé, je crois, sur les 8 ans, j'ai dû signer avec à peu près 25 prestataires.
C'est impressionnant, hein, sur 3 boîtes. Alors, il y a Pizza Hut au début, Sodexo et KPMG.
Voilà.
Quelques mots sur KPMG, quand même, c'est ton activité actuelle. Donc, tu es au Digital et Customer Engagement.
Oui,
en quelques mots, tu peux en reparler. KPMG, cabinet de conseil et audit. Et donc, tu vas trouver tout type de prestataires en digital marketing, en...
Bah, l'idée, c'est à la fois de faire rayonner la marque sur les réseaux sociaux et sur les différents sites web que l'on gère. Également converser avec nos clients ou nos prospects via nos newsletters ou nos webinars, etc. Puisqu'on organise des dizaines par an. Hein. Il y a beaucoup de contenus qui sont créés par nos 4 métiers. La partie conseil, la partie audit, la partie avocat et expertise comptable. Beaucoup de contenu qu'il faut adresser à la bonne personne. Donc, on travaille les customer journey, etc. Donc, ça fait partie de mon rôle. L'objectif, c'est de générer des leads et de s'assurer que ces leads soient ensuite suivis. Donc, c'est aussi toute la partie gestion du pipeline et avoir un pilotage commercial avec le CRM. Donc, je fais beaucoup de change en interne pour qu'on pilote au mieux notre pipeline commercial.
Alors, on avait parlé avec Hervé au dernier podcast, mais c'est intéressant que tu en parles. Comment ça a évolué, cette relation aux prestataires, parce que tu en as fait, donc on peut les citer, hein, il y a eu presque, il l'a dit Hervé, quasiment 4 millions d'euros sur des années, donc merci, les prestataires peuvent te dire merci et tu les soutiens dans leur développement. Qu'est-ce que tu peux partager? Comment ça a évolué? Est-ce que la relation est un petit peu plus partenariale?
L'objectif, ça a toujours été pour moi du win-win. J'essaie de privilégier les sociétés françaises.
Ouais.
Je prends l'exemple de... je me souviens de DQE Unify. J'étais un de ses premiers clients, par exemple, chez Pizza Hut. Et on va sans doute faire affaire chez KPMG de nouveau. Et depuis, évidemment, ils sont très connus sur la place du marché, mais je les ai connus, j'étais un tout premier client. Donc, j'étais chez Pizza Hut, c'était Yum Brands, sur un niveau européen pendant quelques années. Ensuite, j'ai été chez Sodexo pendant 5 ans, chez Benefits and Rewards, sur un périmètre monde, et aujourd'hui, effectivement, chez KPMG France, depuis 2 ans et demi. Ce que j'ai aimé, moi, sur la relation avec les prestataires, au Big Boss, elle est directe. On ne perd pas de temps. Moi, ce qui m'embêtait à l'époque, c'était quand on voyait un prestataire, il venait, puisqu'il venait systématiquement. Il n'y avait pas de télétravail, il n'y avait pas de Teams à l'époque. Donc, il venait. On perdait souvent facile 1h30, quand ce n'était pas un déj de 2h, 2h30. Et en fait, on n'était pas très efficace. On tournait autour du pot. On voulait briser la glace.
Ça,
etc.
C'est jusqu'avant le Covid, tu dirais. C'est là où il y a eu le changement.
Oui, et puis même, avant le Covid, il y avait déjà.
Ça a commencé.
Je dirais le démarchage classique, puisqu'on ne connaît pas les personnes. Il n'y a pas de confiance, au départ. Donc, c'est vrai que. Au Big Boss, on est déjà dans un climat d'honnêteté. Hein. On se dit ça match, ça match pas. On est très direct, mais très professionnel. C'est pas méchant. Hein. C'est vraiment, on est tous là pour gagner du temps. Et comme tout le monde joue le jeu dans cet état d'esprit, on va plus vite. Alors que forcément, quand on est quand on est dans une tour à la Défense, etc. On est tous en costume. Enfin voilà, il y a quand même une barrière. Il y a une barrière de langage, il y a une barrière professionnelle, il y a une barrière. C'est un peu froid, quoi, comme relation. Et donc ça met du temps à ce que la relation se réchauffe. Et du coup, parfois, c'est au bout d'une heure qu'on se rend compte qu'on va pas faire affaire avec cette personne, ou même des fois c'est au bout de 5 minutes, mais bon, on peut pas renvoyer la personne qui a fait une heure de trajet.
Compliqué.
Donc on est obligé de passer l'heure complète ou l'heure et demie complète, et on a perdu une partie de sa matinée, de son après-midi.
Le fit et le feeling dans ces relations business, pour toi, c'est clé. Parce qu'au-delà du pitch, d'avoir une vraie utilité business, est-ce que cette composante du fit et du feeling avec la personne est quand même importante dans les choix que tu as pu faire finalement? Tu vas dire c'est une composante.
Oui, c'est un paramètre. Clairement, moi, ce que je cherche avant tout, c'est la valeur ajoutée pour ma boîte. Enfin, voilà. Oui. Moi, je ne fais pas affaire avec un presta pour ses beaux yeux.
Bien sûr.
Ça, non. Clairement, c'est la valeur ajoutée de la boîte, son prix. Par rapport à sa valeur ajoutée et donc on parle très rapidement
De proposition de valeur,
de rentabilité, de proposition de valeur. Évidemment, si la personne est imbuvable, ça ne donne pas envie de travailler avec, mais en général les gens sont plutôt sympas et agréables.
D'accord. Et après, ce qui va être clé, donc les trucs auxquels tu as été les plus sensibles, parce qu'on va mentionner quelques-uns, il y a eu AB Tasty, Aravati, plusieurs partenaires, 4M notamment. Est-ce que peut-être quelques points que tu veux partager? C'est quoi? Ça va être la relation client, la proposition de valeur?
Avec certains prestataires, je prends l'exemple d'Ametix, alors maintenant c'est XPU, c'est Docapost. J'ai fait affaire avec eux sur trois sociétés différentes. Bridge Solocal, par exemple, j'ai fait affaire à eux chez Pizza Hut. Et pour autant, chez KPMG, ils avaient déjà été choisis. Je me souviens de d'Evermap, par exemple, avec qui je les avais vus quand j'étais chez Pizza Hut. Finalement, ils n'avaient pas été choisis. Je les avais vus quand j'étais chez Sodexo. Finalement, ils n'avaient pas été choisis. Et je les ai choisis chez KPMG. Donc, ce qui est bien aussi,
oui, c'est que... Il faut être tenace, c'est dans la longueur.
Voilà,
parfois.
C'est ça. C'est que parfois, en fait, il n'y a pas le match tout de suite. Mais on connaît la société, on connaît les dirigeants, on a confiance en eux, on connaît leur proposition de valeur. Et parfois, Evermap correspondait à notre besoin parfaitement, et donc était plus pertinent qu'une autre boîte de Store Locator, mais j'aurais été chez une autre entreprise, peut-être que un autre prestataire aurait été plus pertinent. Donc c'est vraiment en fonction du besoin qu'on cherche le prestataire le plus adéquat. Donc moi, ce qui m'a plu effectivement, c'est le côté, j'aimais bien le côté marathon dont parlait Hervé. Alors, il se trouve que j'ai fait plusieurs marathons.
T'es un marathonien, toi?
Voilà, je suis plutôt un marathonien. Ouais. Et effectivement, c'est une course de fond. C'est une course de fond, s'entourer de bons prestataires, ça prend du temps. Là, je vois chez KPMG, voilà, on prend du temps à trouver les bons prestataires pour s'entourer. Et après, effectivement, on va plus vite avec les bons prestataires.
Et c'est une bonne image, le marathon, parce que c'est vrai qu'en B2B, tu le disais, il y a un côté endurance, ça se fait pas tout de suite dans une année,
oui,
c'est trois années plus tard.
Il y a des contrats pluriannuels parfois, on ne peut pas dénoncer un contrat comme ça. Parfois, il faut tester la solution, il faut dans des grands groupes, il faut plusieurs années pour déployer pleinement la solution, parce qu'il y a beaucoup de change. C'est quand même de la transfo digitale dans les entreprises. Donc, il faut changer les us et coutumes. Prouver la valeur ajoutée prend parfois du temps. Parfois c'est une semaine, deux mois, etc. Parfois ça peut être un an, deux ans pour déployer une solution dans toutes les BU, dans tous les métiers, dans toutes les régions, dans tous les pays. Ça peut prendre un certain temps.
Et les enjeux, alors toi qui as vu comment ça bosse, t'as bossé finalement avec pas mal de prestataires au cœur de tout ça, qu'est-ce qui évolue? Ça devient un peu plus partenarial, on est un peu plus proche entre groupe et prestataire, c'est moins une relation descendante et ça devient presque comme des équipes. Un binôme des équipes internes, comment ça évolue cette relation finalement?
Moi, je trouve que c'est moins client-fournisseur, effectivement. Alors, y a quand même, faut pas se mentir, on reste sur...
Ça dépend un peu des secteurs. Toi, t'es dans le digital, dans un monde assez collaboratif.
Oui,
mais
oui,
y a des secteurs plus hard, entre guillemets. La distrib, j'imagine.
C'est à la fois... la relation s'est plutôt réchauffée, je dirais. Enfin, dans le marketing et dans le digital, elle a toujours été assez directe, contrairement à l'IT ou les RH, par exemple, ou la finance, où c'est un peu plus froid. La relation a toujours été plus directe. On est quand même des marketeurs. Je dirais qu'aujourd'hui, on cherche plus des partenaires. Alors, effectivement, on reste sur une logique... avec un engagement, un contrat, etc. Mais on est plutôt sur une logique de partenariat. De plus en plus d'entreprises font 3 mois de renouvellement, par exemple, des renouvellements de 3 mois. Donc, il faut qu'ils prouvent la valeur en continu Voilà, donc il y a des nouveaux modèles aussi qui se créent. On n'est plus sur un engagement de X années sur lesquelles on est ferré avec le prestataire. De plus en plus, le prestataire essaye de jouer le rôle de voilà, j'apporte de la plus-value et je fais confiance en mon client sur le fait qu'il va me garder parce que tous les jours, je lui démontre la plus-value que j'apporte.
Alors, évidemment, c'est important.
Il y a différents business models, hein, mais bon.
Il y a moins le côté pluriannuel. Faut
je
vraiment
parle pas des éditeurs, hein, mais enfin les éditeurs c'est un petit peu différent, mais voilà, il y a quand même cette logique un peu plus partenaire effectivement. Un peu plus direct qui se retrouve. Et puis après il y a aussi la logique de personnes, hein. Tout simplement des fois on choisit des prestataires donc on veut des personnes chez le prestataire puisque dans chaque entreprise il y a des bons et des un peu moins bons. On veut souvent les meilleurs et donc effectivement c'est l'avantage aussi de bien connaître le prestataire, c'est de dire voilà, je veux travailler avec un tel ou un tel pour ne pas être déçu parce que je connais cette personne et voire même parfois on suit la personne même si elle a changé de société. Moi ça m'est arrivé, par exemple je me souviens de Millennials, c'était chez Sodexo, voilà, j'avais travaillé avec cette start-up qui était une sorte de spin-off d'Ametix, parce que je connaissais les chasseuses de l'époque, j'avais confiance en elles me trouvaient des bons talents, et voilà. Et donc, j'ai suivi ce mouvement entrepreneurial.
Okay. Alors, dans les 10 ans du Big Boss, Hervé, on en a parlé beaucoup d'IA cette année. C'est un peu le thème numéro 1 cette année. Qu'est-ce que tu vois, comment tu as conçu aussi l'édito de ces 10 ans et quels sont les thèmes que vous voyez intéressants en ce moment émerger?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 10 ans, ça a beaucoup évolué. On parlait beaucoup d'acquisition dans les débuts, puis après, on a parlé d'engagement, de rétention, puis de data, puis d'émotion. Je me rappelle d'une époque où c'était voilà, la data et l'émotion, l'un ou l'autre, mais finalement, c'est l'un et l'autre. On a parlé de métaverse l'année dernière. Bon, ça a fait un peu... on n'a plus cet effet de mode. Par contre, l'IA, c'est beaucoup plus profond. Karen Schrenzen, qui est la patronne de Trois Suisses, elle a aussi racheté Rue du Commerce. C'est vraiment une passion pour elle. C'était la présidente du jury pour cette édition. Donc, elle l'utilise vraiment pour toutes ses marques, pour tous ses enjeux. Elle a compris que le but, c'était pas de virer tous ses collaborateurs et de les remplacer par ChatGPT. Le but, c'est vraiment d'avoir un collaborateur augmenté. Augmenté par l'intelligence artificielle, et donc pour finalement concentrer la valeur ajoutée humaine sur des tâches à forte valeur ajoutée intellectuelle, émotionnelle, et essayer d'automatiser toutes les tâches besogneuses et sans valeur ajoutée. Donc l'IA, on sent bien que c'est profond. Alors on avait des prestataires qui étaient vraiment des prestataires dédiés à l'IA, et puis d'autres qui rajoutent l'IA à leur mécanique. Des fois un peu trop facilement, hein. Et puis d'autres vraiment ils ont compris qu'il fallait qu'ils migrent vers ces sujets de l'intelligence artificielle.
Moi ce qui m'a marqué dans l'édition, alors forcément avec nous on est allé avec nos équipes Newton Studio qui est une agence de brand content digital et MyGmini qui est la marketplace de talents créatifs, ce qui m'a marqué c'est qu'il y avait beaucoup de demandes autour de la créativité et de la performance qui sont un peu les deux... point clé, je trouve, dans pas mal de prestataires. Hein. Mais voilà, ce besoin de créatif, de sortir du lot et ce besoin, bah, évidemment, de perf, de ROI, comme on dit, de génération de lead. Et on a retrouvé pas mal de demandes qui tournaient autour de ça cette année, je trouve, dans les rencontres des Big Boss. Et c'est vrai que ce sujet IA est assez fort. Après, comme tu dis, Hervé, c'est plus un outil aujourd'hui dans la création de contenu notamment. C'est vrai que c'est un vrai sujet, hein, dans la partie artistique ou créative, mais ce sont plus des outils qui permettent ensuite de mettre sa patte. Je pense notamment à la traduction ou des sous-titrages. Ce sont des premiers outils, mais il faut quand même qu'il y ait un filtre, un moment humain et un savoir-faire qui viennent à travers tout ça.
Oui, après, ça va... Enfin, je suis d'accord avec Hervé. Autant le métaverse, j'ai toujours été dubitatif, et je le suis encore. Autant l'IA, c'est un peu comme Internet quand j'avais démarré il y a 20 ans où certaines personnes n'y croyaient pas. Moi je sais que l'IA va bouleverse déjà en fait nos métiers, le métier du marketeur. Que ce soit sur la publication web, sur les benchmarks, sur tout ce qui est les posts LinkedIn, etc., ça impacte tous nos métiers.
Ça, tu l'utilises déjà, hein.
On l'utilise.
C'est un gain de temps aussi, c'est ça, hein.
Nous, on l'utilise. On a toutes mes équipes, enfin, on va dire 80% de mes équipes sont impactées par l'IA directement. Et moi, je leur ai dit, pour améliorer votre employabilité, vous devez vous mettre à l'IA. c'est essentiel. L'idée, effectivement, l'IA ne va pas remplacer les personnes. Simplement, une personne qui maîtrise l'IA sera beaucoup plus productive qu'une personne qui ne maîtrise pas l'IA. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un, si on prenait quelqu'un qui ne va pas sur Internet. Ah non, moi, je ne vais pas sur Internet. Ok, bon, bah. Ok, merci, au revoir. Voilà, donc, ou non, moi, la suite Office, non, moi, j'y vais pas. Donc, voilà, donc c'est des aujourd'hui, c'est une nouveauté. Ça sera un non-sujet oui. dans quelques années.
C'est ce qu'il a dit Xavier Niel, tu sais, il lance le centre Qtai, là, où je ne suis plus dans l'IA, et il disait qu'effectivement, chaque innovation a fait peur dans l'histoire Internet, et que, bon, bah, là, c'est le cas, ça génère beaucoup d'anxiété, mais finalement, les gens finissent par l'intégrer.
Là, ça va très vite. C'est un peu le Far West encore. Il y a encore des solutions, effectivement. Tous les prestataires, que ce soit au Big Boss ou ailleurs, mettent le mot IA dans leur présentation. Avant, on mettait le mot web. Avant, on mettait le mot métaverse. Bon, maintenant, c'est l'IA. Par contre, voilà, il y a une valeur ajoutée véridique qu'on voit dans beaucoup de solutions. Je suis persuadé que ça va bouleverser. Il y a certains, alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a certains prestataires que j'ai rencontrés qui ont voulu se démarquer en disant voilà, moi non, l'IA, je n'en fais pas. Par exemple, sur de la rédaction de contenu. Et moi, j'ai dit ok, très bien, moi, je ne vais pas travailler avec vous. En fait, l'objectif, c'est d'avoir de l'humain et de l'IA. L'IA tout seul, non. L'humain tout seul, c'est assez luxueux. Donc, c'est pour certains points particuliers. Mais effectivement, aujourd'hui, la majorité des contenus à venir se feront avec l'IA et de l'humain pour contrôler tout ça.
Bon, après, c'est drôle d'en parler à l'occasion des Big Boss. Parce que le Big Boss, pour moi, ça réaffirme aussi beaucoup l'humain. Oui. Qui est une valeur que je partage, et Hervé y en a parlé, quand même le Covid, on sait, il y a eu aussi un shift, et tu en parles un petit peu en filigrane, des visios, des machins qui ont trop désincarné les relations, et quand même de retrouver des relations très, tu l'as dit, sincères, authentiques, ça c'est pas prêt de disparaître, je pense.
Face à face, non.
Peut-être Hervé, tu veux en parler de ça, parce que c'est un point qui est important, après une séquence qu'on a vécu tous pendant 4 ans là.
En fait, ce qui est important avec l'IA, c'est que c'est une révolution qui touche les cols blancs. Alors que toutes les révolutions précédentes, les révolutions industrielles depuis 200 ans, ça touchait plutôt le col bleu, l'ouvrier, etc. Donc c'est vrai que c'est nouveau quand on voit que une intelligence artificielle peut passer le barreau en 28 secondes et réussir des concours de médecine ou autre. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même un bouleversement. En revanche, on va dire que l'humain, il a deux capacités. Il a de l'intelligence et de l'émotion. Mmh. On va pouvoir, au fur et à mesure, gratter sur l'intelligence. Voilà, on a vu, il y a 20 ans, une machine IBM gagner aux échecs contre Kasparov. Mmh. Il y a aussi d'autres jeux qui ont été franchis par des machines. Et donc, l'émotionnel, ça va être un peu plus compliqué quand même. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand on voit les robots, quand on voit l'intelligence artificielle, ils savent faire des trucs que les humains ne savent pas faire en général, calculer très vite ou autre. Mmh. Par contre, ils savent pas se servir un thé et boire ou même marcher. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, des choses qu'on fait nous depuis des centaines de milliers d'années, qui sont dans nos gènes depuis des millions d'années, en gros, la machine ne sait pas encore faire. Donc, on a quand même encore quelques décennies devant nous. Mais en tout cas, l'idée, c'est pas d'avoir peur. Effectivement, comme le rappelait Olivier, on avait peur d'Internet. Les gens qui disaient que la Terre était ronde, ils étaient brûlés sur les bûchers au Moyen-Âge. Parce que tout le monde disait que la Terre était plate et qu'eux, ils se trompaient. Donc voilà, l'intelligence artificielle va être une augmentation de performance et de productivité. Et je ne pense pas qu'elle va pousser au revenu universel et au film de science-fiction qu'on connaît tous. Il faut quand même mesurer tout ça. Il y a des AI Acts un peu dans le monde entier pour réguler tout ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est une opportunité de productivité et non pas une guerre fratricide entre l'homme et la machine.
Oui, voilà, c'est plus une opportunité de l'apprivoiser. Parce que souvent, il y a quand même... Tu parlais du métaverse l'année dernière, c'était la séquence qui a fait plouf, finalement. Il y a toujours une espèce d'onde de choc très fort côté média par rapport à la réalité concrète et le recul qu'on a sur tout ça. Donc c'est vrai qu'on n'est pas encore dans la chanson de HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Moi, c'est un de mes films préférés où il chantait avec émotion et c'est pour ça qu'on le débranchait. On n'est pas encore dans ce côté émotion.
Et tu sais pourquoi il s'appelait HAL, le vaisseau, alors?
IBM, c'était les... Ah, Kubrick, on peut y aller, si tu veux. Hein. On peut y aller. Alors, dernière partie du podcast. Petite anecdote. Vous connaissez... On va aller plus sur un modèle, un côté détente, relax, parce que, bon, vous connaissez bien, vous avez fait tous ces événements. Des petites anecdotes comme ça que vous avez partagées, qui vous ont marqué tous les deux, ou je sais pas, des petits moments comme ça. Flashback. Alors,
moi, j'en ai une marrante d'un prestat un jour qui me décidait que son plus gros deal signé au Big Boss, il avait rencontré le décideur quand ils étaient tous les deux à la pissotière dans les toilettes. Voilà, ils ont commencé la première conversation, c'était à ce moment-là, puis après ils ont prolongé au bar et autres. Et voilà. Donc
ça arrive.
Et puis bien sûr, une anecdote intéressante aussi. D'ailleurs, Olivier, tu l'avais vécu. Donc nous, la Summer Edition, effectivement, il y a plusieurs activités pour créer le networking. C'est vrai que la Winter, en général, les gens vont skier. Et donc, si on a des prestataires qui, le premier jour, n'ont pas créé de lien particulier, ils vont skier pas forcément avec les bons décideurs et donc pas forcément avec les bons prospects. Et donc, ils perdent un peu un potentiel networking. Et donc, quand je voyais que la Summer était préférée par les prestataires à la Winter, j'ai décidé de rajouter une demi-journée de business le samedi matin. Donc en général, auparavant, vendredi après-midi, le business, samedi matin, on skie. Et donc les décideurs, en plus, manque de pause, ce samedi matin-là, il faisait très beau, donc les décideurs voulaient skier, etc. Olivier, je m'en rappelle, avait créé une petite fronde avec d'autres décideurs pour essayer de créer une exception. Donc je m'y suis opposé, effectivement, on a fait ce format. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que j'ai un prestataire qui m'a convoqué et qui me dit « Hervé, t'as rien compris à ton événement. Moi, je fais plus de business sur les pistes de ski que dans des rendez-vous complémentaires. » Je fais « Oui, Gwenaël, c'est vrai, toi, parce que t'as un excellent relationnel. Mais c'est vrai que la majorité des partenaires, ça les rassure d'avoir des rendez-vous formels, organisés, structurés, avec un matchmaking en amont. Mais c'est vrai que les meilleurs commerciaux sont ceux qui vont entraîner une foule, une bande, skier avec eux. Quand on skie, hein, on descend une piste pendant 10 minutes et puis on remonte sur un télésiège. Et donc, on va créer des instants très privilégiés. Donc, en fait, c'est ça l'enjeu. C'est mixer des rendez-vous très structurés et puis des approches très relationnelles. Et c'est finalement plus dur quand on est en train de commander une coupe de champagne au bar du Club Méditerranée à Tignes, dans un endroit magnifique, et que juste à côté, on voit quelqu'un qui peut être un super relais commercial ou autre. On a 20 secondes, 30 secondes pour créer le lien. Sinon, c'est OK, merci, à bientôt. Et puis, les deux chemins se séparent. Donc, donc la puissance relationnelle va créer l'efficacité du format. Et donc, c'est pas si évident pour les prestataires. C'est pour ça qu'on les entraîne, effectivement. On a lancé la Big Boss Academy. On a formé 350 nouveaux partenaires pour qu'ils soient les plus préparés possibles. La baseline, d'ailleurs, c'est oublier de se préparer, c'est se préparer à être oublié.
Pas mal. Une petite question, on arrive dans la fin du podcast. Moi, j'ai une petite question. Nous, sur l'Entertainment Lab, on adore tout ce qui est création de contenu, digital, nouveaux médias, influence. Tous les deux, vous avez fait pas mal de communication pour soit Hervé, pour les Big Boss ou toi dans tes différentes entreprises. Qu'est-ce que vous trouvez intéressant, les nouveaux formats qui sortent? Ça peut être des lives, des web-séries. Qu'est-ce que vous trouvez intéressant sur ces nouvelles manières de communiquer, toi, Olivier?
Moi, c'est beaucoup dans les podcasts et les replays, justement. Parce que souvent, on n'a pas forcément le temps. Enfin, on le voit à la télé, hein, plus personne ne regarde la télé. Maintenant, les gens regardent des replays, ils veulent regarder l'information quand ils sont disponibles. Et quand ils sont disponibles, je sais que ma chef, elle écoute des podcasts en courant, par exemple. À un moment donné, et d'ailleurs, je pense que je vais faire la même chose quand je vais m'entraîner au prochain marathon. Enfin, on va commencer par le semi-marathon. Donc l'idée, c'est qu'on a, on manque de temps. Donc, des nouveaux formats type podcast, par exemple, où on peut faire une activité pendant ce temps-là, ou des formats, évidemment, en vidéo beaucoup plus courts, sont beaucoup plus impactants que de longues interviews télévisées.
Tu regardes plus trop la télé, toi? Il n'y a plus de programmes, un peu moins que les plateformes, j'imagine.
quasiment plus.
Plus, ah ouais. Depuis combien de temps t'as fait le shift ? Quelques années
depuis
déjà ?
Plusieurs années déjà, ouais.
D'accord. Et ciné, tu y vas encore un peu ou pas ?
Ciné un petit peu, mais pourtant j'ai un cinéma pas très loin de chez moi. Mais
un peu moins qu'il y a 4 ans ou 5 ans.
Beaucoup moins qu'il y a 4-5 ans,
ouais. Ok. Toi Hervé, sur tous ces nouveaux moyens, qu'est-ce qui te marque ou que t'aimes bien dans regarder, dans ces nouveaux moyens de toucher les gens ?
Alors c'est sûr que moi je suis toujours surpris par les podcasts où je vois des milliers d'écoutes, on parle pourtant d'une heure. Alors effectivement ça peut être le temps de courir, le temps d'être dans les bouchons le matin ou d'être dans les transports en commun, mais ou même pendant la cuisine en fait, il y a des gens qui font
oui, la cuisine, c'est vrai. Ils écoutent le temps podcasts. D'une cuisson.
Exactement. Et donc un poulet cuit, voilà. voilà. Attention le poulet est prêt, hein, si vous pouvez sortir le poulet du four. Donc alors effectivement il y a aussi une multitude de contenus et des contenus courts. On voit nos enfants qui sont sur les réseaux sociaux, TikTok ou autres, les parents aussi, hein, ils viennent. Et donc, on va consommer de plus en plus des contenus courts et des contenus très longs. C'est-à-dire que c'est fini le temps des émissions, on appelait ça les 26 minutes, les 52 minutes. Maintenant, c'est soit 80 secondes, soit une heure et demie.
Soit 5 heures. Et docu prestige incroyable sur la cuisine ou des grands chefs. Non, ça résume bien un peu aussi ce que je pense. Alors, Olivier, pour un peu mieux te connaître, la toute fin du podcast, sur tes goûts en termes de ciné, série ou création. Alors, on a compris que tu étais un sportif. T'as attaqué quand les marathons
Les marathons, c'est il y a 10 ans. C'est ma compagne qui m'a mis le goût des marathons.
Bravo, et voilà. Tu cours de quoi ? Une ou deux fois par semaine, t'arrives à...
Alors, je cours pas beaucoup. Alors, pour faire un marathon, je m'entraîne un peu. Hein, mais là, par exemple, il y a un semi qu'on va faire en mars. Je vais peut-être courir une ou deux fois avant. Voilà,
d'accord.
Mais par contre, je suis
plus sportif. Par contre, quand tu cours longtemps.
Non, voilà. C'est ça. Non, parce que courir, ça prend du temps. Non, souvent, je fais plus la natation ou du tennis ou du foot. Voilà. Mais je suis plutôt un sportif.
Ça, c'est important aussi. Dans le sport, Big Boss Success, c'est l'hygiène de vie, la discipline, on l'a dit.
Oui, moi,
c'est l'équilibre.
C'est important pour mon équilibre, effectivement. Alors, ça prend un petit peu de temps, pas mal de week-end. Voilà. Mais c'est important pour...
Hervé, toi aussi, t'es un runner ou pas ? Ça, on ne sait pas.
Alors, moi, j'avais lancé, il y a 7-8 ans, le Digital Runners Club.
Ah, faire le semi avec moi.
Voilà, d'accord. Je vais faire le semi avec plaisir avec toi, Olivier. Il faut que moi, je me réentraîne quand même pas mal. Mais j'ai déjà fait un semi-marathon, le jour où ta dernière fille est née, d'ailleurs. Et donc, le sport, c'est très important. On a Ibrahim Asloum sur la Winter Edition des 10 ans, qui est champion du monde, champion olympique. Et il a fait une conférence sur le business est un sport de combat. Et c'est vrai que ces businessmen ou ces cadres dirigeants qui ne font plus de sport, qui ne font que travailler, ils finissent par exploser en burn-out et autres. Et donc, à un moment donné, finalement, l'adrénaline, pourquoi aller chercher à se prendre des drogues de synthèse et autres ? Juste une heure et demie de natation, et puis on a cette
dopamine
qui vient, et qui nous permet de mieux réfléchir, de mieux prendre du recul sur un certain nombre de sujets. Moi, le nombre de décisions que j'ai prises entre deux longueurs de natation,
t'es plus natation que running au quotidien,
ouais,
en
natation
régulier.
Aussi. Je suis plus aussi Nutella et chocolatis, c'est ça mon problème. Et
donc, merci Ferrero qui viendra sur les Big Boss.
Et donc il faut, ma fille elle rêverait d'avoir son poids en chocolat, donc en Nutella, hein, ce serait son rêve. Donc voilà, donc il faut mixer, comme il faut mixer le business et la vie de famille, il faut mixer le chocolat et le sport. Quoi.
D'accord. Et donc côté créa, donc ça peut être des pièces, des lectures, qu'est-ce qui t'as toujours aimé, toi ?
Alors moi, j'aime beaucoup les one-man shows.
T'as découvert qui, par exemple ?
J'ai découvert... alors, je suis très mauvais dans les noms. Alors, faut pas me demander le nom du dernier one-man show, mais j'en ai vu... tous les...
T'aimes bien cette vibration, quoi.
Paul Mirabel ou autre.
Paul Mirabel, oui.
Moi, j'aime beaucoup. Et après... je suis très ouvert à toutes sortes de cinéma, voilà, tous les bons films, quel que soit le genre, ou comme les pièces de théâtre, quel que soit le genre, si c'est une bonne pièce de théâtre ou un bon opéra, j'aime beaucoup.
Un film de chevet, qu'est-ce qui t'aurait marqué en ciné, notamment ? À part 2001, bien sûr.
Non, mais voilà, je vois votre affiche de Pulp Fiction.
Ah oui.
Voilà, ça peut être des films assez
fort.
Populaires comme ceux-là. Voilà, c'est des films qu'on a beau les revoir 3, 4, 5, 6 fois, même 20 ans après, ils ne se démodent pas, quoi.
C'est on ça, va lancer avec Hervé les guests Entertainment au Big Boss. Alors que Tarantino, moi je l'avais rencontré et ça a été une des rencontres marquantes que j'ai pu faire avec Branson, où j'ai eu des grandes personnes comme ça que j'ai pu rencontrer, qui étaient finalement assez humaines et assez simples. Enfin, souvent les plus grands, mais je pense qu'Hervé, il l'a vu avec tous ces gens invités, souvent les plus grands ont une humilité et une simplicité. J'imagine où tu l'as constaté, peut-être tu vas en parler, mais c'est important, c'est ces valeurs d'humilité, enfin, sur la réussite.
Nous, on a invité Harry Rosenmack, qui était aussi très bienveillant, très positif. Jean-Marc Sylvestre, qui était le journaliste de l'économie quand on avait 10-15 ans, quand on regardait le club de l'économie sur TF1, Brahim Asloum, donc des gens qui sont effectivement, qui ont eu des très grandes gloires. D'ailleurs, Brahim, ce qu'il disait aussi, c'était vachement intéressant, il disait que quand il a eu ses titres, champion du monde, champion olympique, il a eu une phase un peu de déprime, dépression, parce que quand on a atteint ses objectifs, quand ça fait 20 ans, 30 ans qu'on bosse ses objectifs et qu'on les atteint,
Il y a eu un post-partum un peu.
Donc après, il doit se reconstruire. Et il l'a expliqué vraiment en toute bienveillance. Aujourd'hui, il a tout un tas d'activités autour du coaching, du sport, bien sûr, de la boxe. Et donc c'est vachement intéressant. Et il y a beaucoup de corollaires entre un entrepreneur et un sportif de haut niveau. D'ailleurs, souvent, les sportifs de haut niveau sont des bons entrepreneurs. Parce que les valeurs, la détermination, l'énergie, le travail, c'est ça aussi qui permet de réussir quand on est entrepreneur.
Alors je confirme, étant entrepreneur, je vois de plus en plus d'analogies avec le sport. Je trouve l'endurance, on m'a parlé. Il faut faire l'endurance et le sprint en même temps. Il y a les deux, hein. Il y a les speed betting avec Hervé et en même temps, c'est une course de fond, on l'a dit tout à l'heure, hein, les rencontres professionnelles. On a parlé d'équilibre, ça c'est très important. Je pense que les grands sportifs, s'ils n'ont pas l'équilibre à côté, faut y aller. Et puis après, il y a des valeurs aussi, comme tu disais dans le combat qu'a parlé Brahim, de fair play, d'humilité, de bienveillance. Quand on va manager des équipes aussi, on le sait, on peut plus y aller boum boum comme dans les années 80. Ça, on le sait aussi. Ça, tu veux peut-être en parler, Olivier, toi qui as managé aussi des équipes, peut-être en quelques mots là-dessus.
Ah, il faut donner envie. Hein. Moi, clairement, la rétention des talents, c'est clé, particulièrement en ce moment où, franchement, c'est de plus en plus compliqué, notamment sur des marchés en tension. Enfin voilà, les équipes Salesforce ou des bons qui sont dans le digital marketing. Enfin voilà, la rétention des talents, c'est clé. Pour ça, il faut que les gens soient épanouis. Il faut les faire grandir, il faut les faire évoluer. Là, par exemple, en ce moment, c'est l'IA. C'est le pilotage par la data. Enfin voilà, c'est des mots assez classiques, mais
faut donner aussi, de sa personne. C'est ça, un manager.
C'est l'écoute, hein, c'est de comprendre la motivation de chacun. Il y en a qui marchent à la reconnaissance, il y en a qui marchent à la motivation, il y en a qui marchent au management. Voilà. Donc il faut trouver le moteur de chacun. Il y en a qui marchent à le bon équilibre vie perso, vie pro. Voilà. Donc il faut connaître les personnes que l'on manage, et puis ne pas mettre une barrière entre le manager et le managé. Enfin, on est une équipe, on réussit ensemble. Si je réussis, c'est grâce à mon équipe. Voilà. Et si mon équipe est réussie, c'est aussi un peu grâce à moi. Voilà. Donc, je montre une direction. Voilà. Donc, je trouve qu'on est beaucoup plus en meute. Enfin, on travaille en meute, on travaille en équipe, plutôt que l'individualisme. D'ailleurs, on le voit dans les entrepreneurs quand on fait. Quand on crée une société, enfin, on a une expérience avec Hervé là-dessus où il y avait eu différents associés, un associé qui était très très individualiste, il a continué tout seul, voilà, parce que un travail
savoir s'entourer, le teamwork, quoi.
Voilà, savoir s'entourer. Je pense que c'est une des forces des big boss. Hervé a su s'entourer de très bons collaborateurs. Et qui sont restés pendant 10 ans et qui ont eu un parcours important, qui l'a fait évoluer et voilà, et ils sont fidèles et je trouve que c'est un très bon exemple, quoi.
La toute dernière, Olivier, c'est le conseil que t'aimerais donner à justement la jeune génération qui se lance sur le marché du travail. Ce que tu peux transmettre, 2-3 petits conseils.
Moi, je dirais que, on a eu récemment, on parle beaucoup des millennials, équilibre vie privée, vie perso. Alors effectivement. On sait que dans beaucoup de sociétés, soit on est entrepreneur, soit on travaille dans une entreprise, dans un grand groupe. Les deux ne sont pas incompatibles. Hein. Moi, j'ai été entrepreneur et j'ai travaillé dans des grands groupes. Et je travaille dans un grand groupe actuellement. Évidemment, dans un grand groupe, on est plus un individu parmi X, alors que quand tu es entrepreneur, on maîtrise plus son destin. Donc, c'est des chemins de vie différents. Et en même temps, il y a une valeur commune, c'est quand même le travail. Vie perso, oui. Moi, la vie perso, c'est très important et je ne pense pas être prêt à travailler deux fois plus pour gagner deux fois plus, par exemple. Ça ne m'intéresse pas. Et en même temps, il faut quand même un minimum de sérieux. C'est-à-dire souvent, les millennials qui arrivent sur le marché du travail avec le télétravail, etc. Voilà, télétravail, c'est pas télé. C'est concrètement, il faut être sérieux et il faut s'investir. Il faut s'investir un minimum dans son entreprise parce que je trouve que ce qui est intéressant dans une entreprise, c'est ce qu'on y fait. Et si on y va reculons, on ne s'amuse pas. Moi, j'ai plaisir à aller au travail tous les jours. J'ai plaisir à voir mon équipe avoir plaisir à aller au travail. Et je vois que ceux qui ne sont pas investis, ceux qui sont un peu trop millennials, ils ont leur vie perso, mais en fait, leur vie pro, qui est quand même une grosse partie de leur travail, ils ne sont pas épanouis. Et en fait,
On a souvent tendance à opposer les deux. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on voit dans heureux, les Big Boss, c'est qu'il faut réconcilier le perso et le pro. On a tendance, peut-être, comme tu le dis, à trop les opposer, finalement.
Pour moi, être heureux, c'est être heureux en famille, en amour et au travail.
Voilà, je crois qu'on va finir sur cette tagline magnifique. Hervé, un petit mot aussi de complément là-dessus ?
Non, c'est vrai que tout a été dit. Je dirais que, notamment pour les jeunes entrepreneurs ou les jeunes qui arrivent, il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie.
Exactement. Les auditeurs auront choisi, évidemment, entre les deux. Merci beaucoup à vous deux. C'était un plaisir de vous avoir pour ce podcast.
Merci.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.